fait comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu couches ça.
Si vous aimez manger de bons produits, vous vous fiez certainement aux fameuses AOC, appellation d'origine contrôlée. Il faudra désormais vous familiariser avec les AOP, appellation d'origine protégée. Cette fois, ça n'est pas simplement français, c'est toute l'Europe qui est concernée. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque cela veut dire que tous ces produits seront protégés dans 27 pays.
L'appellation d'origine n'aurait donc que des avantages.
Il y a longtemps de ça, chaque année, une course était organisée. La course au fromage.
Du fromage.
Du fromage.
J'adore.
Je déteste.
Vos fromages ne sont pas des fromages AOP.
Ah non, non. Nous, on n'a pas souhaité rentrer dans la démarche de l'AOP au Soirati.
Bonjour à toutes et tous. Au Soirati, Camembert, Roquefort, Fourme d'Ambert, il est beau notre plateau, il fleure bon le terroir, la France éternelle, les traditions fermières, ça c'est pour la carte postale. Problème, cette carte postale commence sérieusement à s'écorner. Nos 45 appellations d'origine protégée ont vocation à protéger, mais protéger qui? Protéger quoi? Pas toujours, on va le voir, l'authenticité de nos fromages. Et si les AOP n'étaient plus vraiment un rempart contre l'appétit des industriels, contre la pasteurisation, la standardisation du goût et, osons le gros mot, contre la chimie, eh bien c'est le constat accablant que dresse Véronique Richet-Lerouge. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée dans les filières laitières et fromagères. On se souvient de votre enquête sur le lait, la vache qui pleure, pour laquelle vous étiez venu à ce micro l'an dernier. AOP, main basse sur les fromages. Comment les multinationales contrôlent les appellations aux éditions Éric Bonnier? Eh bien, c'est la nouvelle enquête que vous publiez le 23 février. Ça sort dans quelques jours, soit deux jours avant le Salon international de l'agriculture qui s'ouvre samedi prochain, porte de Versailles. Je crois que la date n'est pas totalement innocente.
Oui, non, c'est clair. Quand on parle d'agriculture, c'est à peu près toujours à cette période. Et après, on oublie le sujet toute l'année.
Eh bien, là, on va pas l'oublier. Le sujet de nos fromages en danger. On va plonger avec vous dans la crise d'identité que traverse notre patrimoine fromager à travers des exemples concrets de la Normandie aux Pyrénées en passant par l'Auvergne. Rassurez-vous chers auditeurs, il y a quand même des raisons d'espérer dans cette émission. Trois chroniqueurs et trois bonnes nouvelles. Du fromage avec Lénora Krief, bonjour.
Bonjour, oui, et du vrai fromage fermier fabriqué dans la tradition béarnaise.
On va voir ça. Du pain avec Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous, ouais, du vrai pain aussi, des farines de blé ancien et de l'eau de puits artésien.
Ah, ça sent bon, ça fleure bon le bon pain. Du vin avec Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour, oui, chez nous le vin sera rebelle et coquin parce qu'il sera vin de France.
Très bien, vin de France, et oui, on va voir que là aussi il y a des rebelles du côté des vignerons. Derrière la vitre de la régie, pour cette émission en direct, Hélène Bizio, Jean-Noël Vélan, Nadia Chougui, comment se porte les fromages de tradition à côté de chez vous? Leur goût a-t-il changé? Réagissez et posez vos questions sur Twitter avec le mot-clé On va déguster, sur notre mail On va déguster à radiofrance.com.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
Ils sont plusieurs dizaines à être restés jusque tard dans la nuit. Un rassemblement symbolique de ces agriculteurs normands devant la laiterie Grain d'Orge, la dernière rachetée par le groupe Lactalis.
On ne peut pas imaginer qu'une entreprise comme Lactalis se développe aussi bien sans penser à ses fournisseurs de matières premières, à savoir nous tous qui sommes producteurs de lait.
Extrait d'un JT du 30 août 2016 sur un événement qui a provoqué beaucoup de remous et d'interrogations dans le Landerneau des fromages normands. Un coup de Trafalgar, pourrait-on dire, d'une multinationale laitière, Lactalis pour ne pas la nommer, sur l'une des dernières fromageries familiales du Calvados. Cet événement, Véronique Richet-Lerouge, ne vous a pas échappé?
Oui, alors c'est vrai que je connais Thierry Grédorge depuis fort longtemps et quand j'ai su, j'avais eu l'info un petit peu avant, quand j'ai su qu'il allait vendre à Lactalis, moi ça m'a consternée. Concrètement, Lactalis est déjà très présent en Normandie depuis 1978. Ils ont des positions hégémoniques. L'autorité de la concurrence dans le domaine des télécoms surveille tout ça. Et dans le domaine agricole, on dirait que d'un seul coup, on oublie complètement les positions hégémoniques des multinationales.
Aujourd'hui, resituez-nous Grain d'Orge.
Grain d'Orge, c'est une fromagerie qui est centenaire, qui a été créée par le grand-père de Thierry Grain d'Orge.
Même plus que centenaire, puisque je crois que Eugène Grain d'Orge a quand même fondé l'entreprise familiale dans le Calvados en 1978. 1910.
Voilà, et c'est une entreprise, c'est un fleuron du camembert de Normandie au lait cru. C'était un peu le pilier, vous voyez, le défenseur, c'était lui qui prenait la parole quand il fallait mener les combats. En 2007, quand il y a eu la guerre du camembert, c'est lui qui était monté au front avec Gillot, avec quelques-uns.
Pour défendre l'usage du lait cru dans le camembert.
Et d'un seul coup, c'est la consternation. On se dit même lui... Pour 58 millions d'euros, à peu près, hein, c'est le chiffre, a vendu son entreprise. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que Lactalis s'offre un nom, une réputation, un portefeuille d'éleveurs laitiers. Ça, faut le savoir, parce qu'à chaque fois que Lactalis rachète une entreprise de ce type, c'est pas la première, et malheureusement, ça sera pas la dernière. Eh bien, c'est tout le portefeuille laitier qui part avec. Portefeuille laitier, ce sont des producteurs qui fournissent du lait à la fois pour fabriquer de l'AOP, mais aussi pour fabriquer tout à fait autre chose. Parce qu'il faut savoir que le lait n'est pas entièrement transformé sous le terme appellation. Et c'est aussi la réputation, c'est la crédibilité du fromage français. Le camembert, c'est un fromage, c'est un emblème du fromage français.
Je tiens à préciser que quelques semaines avant la vente de grains d'orge à Lactalis, j'avais appelé, quand j'ai vu quelques tweets, notamment le vôtre, qui annonçait cette rumeur d'un rachat de cette célèbre maison familiale Grains d'Orge par le groupe laitier Lactalis. Il y avait un tweet et j'ai appelé Thierry Grains d'Orge, qu'on avait d'ailleurs reçu il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, Elvira, dans cette émission. Il venait défendre effectivement les fromages de tradition normande, les fromages au lait cru, les fromages AOP. Et lorsque je lui ai posé la question, mais alors il y a ces rumeurs d'un rachat de Lactalis, il m'avait dit le cœur sur la main, au téléphone, vraiment, non, de mon vivant, jamais mon entreprise ne sera vendue à Lactalis, ce sont des fausses rumeurs. Laissez les journalistes colporter de fausses rumeurs. Voilà ce qu'il m'avait répondu. Quelques semaines après, la vente était faite. Pourquoi a-t-il accepté de vendre son entreprise familiale à Lactalis?
Vous savez, quand il y a quelques zéros, ça finit par tourner le cerveau des gens.
Mais quand on a des convictions.
Mais il n'y a pas de conviction, visiblement. C'est ça le problème. C'est que, à un moment donné, la moralité de l'affaire, c'est qu'à coup de millions d'euros, on arrive à racheter tout un patrimoine, des réputations, des familles, et surtout des savoir-faire. Parce que derrière, les savoir-faire qui se sont transmis, et c'est le sens des AOC, qui sont devenus AOP, c'était que ce savoir-faire, il fallait le protéger. Mais quand ça passe dans les mains de multinationales, comme Lactalis, et c'est pas la seule, il y en a d'autres, Sodial, il y a Savencia, Ex-Mongrain, etc., qui aujourd'hui détiennent deux tiers des AOP, il faut quand même le savoir, eh bien ces savoir-faire passent dans les mains de ces gens-là qui, de toute façon, à terme, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire sur les années, etc.
Parce que là, depuis le rachat, il ne s'est rien passé de particulier, il n'y a rien
non,
à signaler.
Non, j'ai visité, j'ai été reçue très gentiment par l'entreprise, j'ai vu les gens travailler, alors c'est vrai que l'ambiance n'est pas folichonne, je ne vous cache pas quand même qu'il y en a qui tirent un peu la tête, notamment des vieux employés qui sont là, qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là ?» C'est clair que quand on appartient à une multinationale qui fait 17 milliards d'euros, et quand on a travaillé toute sa vie dans une petite PME paternelle en quelque sorte, voyez, familiale, avec des valeurs, etc. C'est clair que finalement, on se dit qu'est-ce que je fais là et quel est le sens de ma vie. Bon, mais il faut que les gens travaillent.
Elvira soulève un point intéressant parce que, comme beaucoup d'autres d'ailleurs localement, elle peut se dire, mais a priori, qu'est-ce qui va changer? Les fromages que produisent Grains d'Orge, que sont le Livaro, le Pont-l'Évêque, le Camembert de Normandie, sont protégés par des AOP. Rappelons quand même, quand vous évoquiez la position hégémonique de Lactalis, c'est 90% des parts de marché du Livaro AOP, 75% du Pont-l'Évêque AOP, 50 à 60% du Camembert de Normandie AOP, c'est également 75% d'un fromage normand AOP qu'on oublie souvent, c'est le Neuchâtel. Et souvent, on vous rétorque l'argument que, quelle que soit l'identité de l'opérateur, un artisan ou un industriel comme Lactalis, de toute façon, ces fromages sont protégés par des cahiers des charges.
Mais
alors pourquoi s'inquiéter? Un cahier des charges, il est là justement, appellation d'origine protégée, pour protéger la fabrication d'un camembert, l'origine du lait, le processus de fabrication. Pourquoi Lactalis représente à ce point un danger?
Si vous voulez, les cahiers des charges évoluent tout le temps. Alors, il y avait des cahiers des charges très creux au moment des AOC. Alors, ça a démarré en 1935 avec le Roquefort. Le Camembert a obtenu son AOC en 1983. Puis, il y a eu des évolutions.
Très creux, c'était très laxiste.
Oui, très laxiste, un peu nihiliste. Il n'y avait pas grand-chose dedans.
Très souple, très évolutif.
Voilà, on laissait un peu tout faire. Il y a des cahiers des charges, au contraire, plutôt musclés, assez forts. Mais on a remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des industriels, des gros poids lourds dans les AOC, ils ne vont jamais dans le sens du renforcement du cahier des charges. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils font des pressions pour assouplir, pour essayer de pasteuriser, parce qu'évidemment, la pasteurisation, c'est plus simple, ça coûte moins cher.
On a bien vu d'ailleurs, en 2007, vous évoquez la bataille du camembert au lait cru, qui a en l'occurrence été gagnée par des opérateurs artisanaux, dont Thierry Grains d'Orge à l'époque, ironie de l'histoire quand même. Et effectivement, Lactalis plaidait pour l'utilisation, l'usage du lait pasteurisé faisait dans le camembert au prétexte qu'il y avait...
Raison sanitaire.
Voilà, raison sanitaire, au prétexte que le lait cru représentait un danger. Citez-moi des gens qui ont été empoisonnés par du lait cru en Normandie.
Voilà, ça se saurait. Comment faire confiance à des gens qui, à chaque fois qu'ils sont dans une AOP, et ils sont dans beaucoup d'AOP et de manière très forte. Dans le Bannon, c'est phénoménal. Dans le Roquefort, ils pèsent très lourd. Dans l'Ossau Irati, ils sont très présents. L'Ossau Irati pasteurise aujourd'hui. Alors, il y a parfois, si vous voulez, toute la question, c'est de savoir comment une AOP va pouvoir résister. Mais nous sommes dans des combats. C'est
permanent.
Ça le problème, permanent.
Et les industriels luttent. On pourrait comparer l'AOP, le cahier des charges, à une espèce de digue ou de rempart, dans lesquels il y a de plus en plus de brèches.
C'est ça.
Et ces brèches se manifestent justement sous les coups des industriels qui veulent assouplir le cahier des charges.
Je veux bien qu'on me dise que les cahiers des charges sont un rempart, mais quand on regarde depuis 70 ans l'histoire et comment ça s'est produit, en réalité, on n'a fait que baisser le niveau. La médiocrité est de plus en plus fréquente. Les fromages AOP sont standardisés. Mmh. Il y a très peu aujourd'hui dans les AOP, il y en a quelques-uns, bien sûr, il y a des exceptions, comme toujours, mais il y a quand même globalement une très grosse baisse de la qualité. Donc moi, c'est le constat.
Le pastoralisme qui disparaît, donc les paysages, évidemment, les paysages campagnards.
Bah, dans les Poises, regardez,
c'est les paysans qui disparaissent plus qu'ils ne s'installent.
Dans les Poises, plus qu'un fermier. Est-ce que c'est
parce
normal?
Parce que le cahier des charges de les Poises autorise
la pasteurisation. À chaque fois qu'on a assoupli les cahiers des charges, qu'on a fait des décrets, les fermiers ont disparu. Il y a moins de fermiers aujourd'hui dans les AOP qu'il y en a hors AOP. Il faut savoir que les AOP, les fromages, représentent 10% du plateau de fromage français. Il y a plus de fermiers, plus d'artisans hors AOP aujourd'hui. Ils se sentent plus libres que dans les AOP. Puisque dans les syndicats, ils n'ont pas droit à la parole. Alors, il y a certaines AOP comme le comté, par exemple, où là, il y a encore des opérateurs de poids qui arrivent à avoir de la voix, si vous voulez, à faire entendre leur point de vue. Mais dans les AOP, il n'y a plus que des multinationales. Ils font comment? Ils ne pèsent rien. Dans le Cantal, c'est le cas.
Comment le consommateur s'y retrouve? Surtout que vous précisez que Lactalis ou d'autres groupes industriels ont la malice de ne jamais faire figurer le nom de leur marque, en fait.
Oui, alors ça, c'est extraordinaire. Moi, il a fallu que je cherche. J'ai fait toute une enquête pour trouver qui se cachait derrière les marques.
Parce qu'alors, ça a été une enquête de fourmis.
On a des noms très jolis, comme Pont de la Pierre,
Gaston c'est quelle appellation, Pont de la Pierre
Perlade, ça c'est Lactalis, en fait. Pont de la Pierre, c'est un bleu d'Auvergne, Étoile de Provence, c'est du Bannon. Donc c'est du
dit comme ça, ça fait un peu rêver.
Ben voilà, Étoile de Provence, on ne sait pas du tout que c'est Lactalis. Et même sur le site internet, vous y allez, vous trouvez nulle part Lactalis. La fromagerie de Féterne pour l'abondance. Le Brie de Meaux, c'est Saint-Faron-Nugier, qui est une très ancienne fromagerie. Alors évidemment, à chaque fois, ils gardent les noms. Hein.
Et le problème d'ailleurs, c'est là où ça intéresse a priori nous autres gastronomes, c'est qu'il y a des écarts au sein d'une même appellation, des écarts de qualité tout à fait préoccupant. Je tiens à signaler que dans votre livre, AOP, main basse sur les fromages, comment les multinationales contrôlent nos appellations, chez Éric Bonnier, pour ceux qui veulent se réveiller la conscience en termes de fromage, je recommande très vivement cette enquête choc. Elle est pessimiste, on peut le dire, mais elle a le mérite de tirer la sonnette d'alarme. Pour les besoins de votre enquête, vous êtes livré à une dégustation à l'aveugle, à laquelle vous m'avez d'ailleurs proposé de participer, donc je suis bien placé pour en parler. Ça s'est passé dans le restaurant Le Grand Véfour, jardin du Palais Royal, en présence de son chef Guy Martin. Et vous nous avez fait goûter plusieurs fromages, ils étaient au nombre de 13, tous appartenant à une appellation, simplement dans la même appellation, entre deux fromages fabriqués par deux opérateurs différents, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des écarts de qualité que moi-même, à titre personnel, je n'imaginais pas. On a goûté notamment du Cantal, de l'Époise, du Reblochon, on a noté à l'aveugle, véritablement, en fonction de notre ressenti, c'est-à-dire que sur une même assiette, vous aviez un Cantal qui obéissait au même cahier des charges d'une AOP.
Voilà,
l'autre Cantal, également avec le même cahier des charges. Preuve qu'en respectant le même cahier des charges, on peut arriver à deux qualités, mais vraiment, pour le coup, très très différenciées. Prenons l'exemple du Cantal. Vous notez 7 sur 10 un Cantal, qui est en l'occurrence le Cantal de la fromagerie du Roux, et 2 sur 10 pour une autre sélection de Cantal qui effectivement n'était pas bon, avec une amertume dont je me souviens encore, qui me reste presque.
C'était une histoire de lait cru et de lait pasteurisé ou
non,
pas du tout?
Là, en l'occurrence, le Cantal.
Là, dans le Cantal, on autorise la pasteurisation.
Tout à fait.
Donc, il faut savoir que sous la bannière AOP, on peut avoir du pasteurisé, du lait cru, on peut avoir du laitier ou du fermier. Alors, je précise que le fromage fermier, c'est un fromage fabriqué à la ferme avec le lait du troupeau uniquement. Donc, déjà, on n'est pas du tout dans la même qualité parce que le lait n'a pas voyagé, il n'a pas été refroidi, il n'a pas été réchauffé, etc. Donc, là, le le lait est vivant, parce que toute la question, c'est les ferments lactiques, c'est tout le process de fabrication qu'il y a derrière. C'est pas que le cahier des charges, il y a tout un environnement fermier qui fait, qui contribue aussi à la signature du goût. Alors le mot goût, je sais, ne veut plus rien dire. Le goût, c'est, si vous voulez, c'est la comparaison des produits. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette comparaison de fromage AOP. Parce qu'au sein d'une AOP, quand vous comparez, vous réalisez qu'il y a des différences. Et là, vous, vous éduquez
mais
le goût.
On réalise surtout que le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée autorise par conséquent des dérives de qualité. Un autre petit exemple, on finira par là. Et puis ensuite, on passera effectivement à une question brûlante qui est celle de l'osso irati et des fromages de qualité en Pyrénées, les poisses. Alors là, pour le coup, vous dites que l'appellation de ce, enfin, le cahier des charges de ce fameux petit fromage bourguignon, originaire du XVIe siècle, quand même créé par une communauté de moines cisterciens, a du plomb dans l'aile.
Bah, clairement, vous avez 80% des poisses pasteurisées. Donc déjà, c'est de la pâte à tartiner, il faut être clair, ça n'a plus aucun goût. Et puis vous avez un fabricant qui reste, Gaugry, je vais le citer, parce qu'il mérite, voilà, c'est une petite fromagerie qui fait quoi, 2,5 millions, 3 millions d'euros, qui travaille à l'ancienne, qui est quand même qu'on trouve aujourd'hui sur les marchés, etc. Et qui travaille au lait cru, et c'est beaucoup plus compliqué.
Et nous,
et
on
puis,
a goûté
un fermier.
Et
voilà,
on a tout. Goûté un époisse Berthaud à qui on n'a pas mis une bonne note, mais on les cite, tant pis, ils sont au lait pasteurisé, 3 sur 10, et honnêtement, ça valait pas plus. Et là, on est, comme vous le dites, dans une espèce de pâte à tartiner avec un croûtage poisseux. Là aussi, de l'amertume et en bouche.
Ouais.
Et c'était pas un fromage satisfaisant.
Et cet époisse dont vous parlez, celui de Berthaud, on le trouve dans plein de très bonnes, soi-disant très bonnes fromageries.
Alors ça,
c'est aussi une responsabilité de fromager.
Au lait pasteurisé. Mais ça, c'est l'époisse qui a laissé dériver son cahier des charges, en fait.
Oui, alors ça, c'est un vrai problème que je vous signe dans le livre aussi. C'est les circuits de distribution. Vous avez des fromagers détaillants qui s'en fichent, qui sont très laxistes sur les choix, qui se fournissent chez les grossistes, qui se cassent pas la tête. Ils disent oui, mais moi, c'est plus simple d'être livré en 48 heures, etc. Et comme évidemment, les multinationales proposent au catalogue des grossistes, il n'y a plus que 3 sociétés en France de grossistes, c'est toujours les mêmes produits qu'on trouve, eh bien, les fromagers détaillants ne font pas ce travail de recherche, alors que normalement, c'est leur boulot, quoi. Autant en grande distribution, ok, on peut se dire, d'accord, on a un peu un boulevard de fromage, mais pas chez les détaillants.
Dans un instant, heureusement, bonne nouvelle, on va prendre l'air dans les Pyrénées grâce à Lénora Krief, qui a emmené son micro vers un producteur fermier vraiment modèle. Vous écoutez François et The Atlas Mountain, grand dérèglement, ça tombe bien.
D'ici estimé content d'encore dégager quelques excédents. Eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu avale la Méditerranée. Nos demandes sur l'algorithme des mots en rythme pour demain, à voir avec quelle cadence ces rapports souffrent leur nonchalance. Va croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments. Ils respirent comme ils montent. Combien de temps
votre fromage, il obéit quand même à certaines règles.
Ah oui, ça ne nous empêche pas de justement de répondre au côté responsable de vendre un fromage. Sur les taux, par exemple, alors, les taux de Listeria sont identiques. On a les mêmes seuils que l'industriel, sauf que nous, on vit pas de la même manière que l'industriel. On est dans un environnement où il y a de la vie, où il y a de la bactérie. Et c'est vrai que comme on laisse place à tout ça, la petite présence de listeria qu'il peut y avoir, par exemple sur du sol, sur les murs, elle va pas avoir la place de se développer et d'exploser. Comme dans le monde industriel qui aseptise tout, et qui désinfecte tout. C'est pour ça que s'ils maîtrisaient tout, il n'y aurait pas des scandales de listeria sur des rillettes, sur du fromage à grande échelle et qui touchent je ne sais pas combien de consommateurs.
Les industriels invoquent souvent des arguments hygiénistes pour dire que faire du fromage au lait cru de façon fermière, ça comporte un risque. Or, on nous montre justement qu'il y a moins de risques dans la fabrication fermière que dans la fabrication industrielle concernant la listeria.
Oui, ça c'est un gros prétexte, hein, je vais vous dire. C'est juste pour faire marcher la machine économique agricole. Mm-hmm. En réalité, au début du siècle, on fabriquait plus de fromage au lait cru en Cantal et partout, et même en Camembert, qu'aujourd'hui. Donc l'argument agriculture productiviste, ensilage de maïs, stérilisation, etc., c'est juste pour fournir du travail à toute une chaîne économique, point barre. En réalité, plus vous stérilisez, plus vous fragilisez.
C'est ça.
Un lait vivant se défend. Un fromage au lait cru est stable. Par contre, un fromage pasteurisé, il attrape tout.
Et le fabricant qu'on entendait précisément à l'instant est un formidable éleveur et fabricant de fromage fermier. On est où exactement, Lénora Krief ?
Dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'était Maxime Bajaz, dont je vous propose de découvrir son travail et celui de sa compagne Barbara Vignerier. Tous les deux sont cités dans votre enquête.
C'est même vous, Véronique Richer-Lerouge, qui nous avait mis sur la voie de ce couple formidable.
Ce sont donc deux fermiers et producteurs de tomes de brebis en Vallée d'Aspe. Alors l'été, ils transhument avec leurs troupeaux sur l'estive de Banas, à plus de 1700 mètres d'altitude. Ils vont donc fabriquer leur fromage en cabane dans les pâturages qu'on appelle estives. Et l'hiver, ils le produisent dans leur atelier de fabrication à bord de Bergèze. Dès 6h30, Maxime et Barbara sont en poste pour la première traite à la bergerie. Moi, je les retrouve en fin de journée pour la deuxième traite journalière. Et en arrivant, ce sont près de 120 brebis, toutes de race basco-béarnaise, qui nous accueillent.
Bon ben là, ça neige.
Plus souvent comme ça, comme aujourd'hui?
Ah bah ouais, les Pyrénées-Atlantiques, c'est... on dit facilement les Pyrénées-Aquatiques.
Ah!
Elles nous disent bienvenue. On est très très en retard, ça bêle beaucoup plus que ça, hein. Ça râle beaucoup plus.
Alors qu'est-ce que vous leur préparez là?
Alors je leur prépare la ration qu'on leur donne deux fois par jour. C'est donc un mélange de maïs, orge et lin, auquel on ajoute un complément azoté. Voilà, et donc ça, elles ont ça matin et soir avec le foin à volonté. Et l'été, quand on monte en estive à partir du 20 juin, elles n'ont que l'herbe
des montagnes.
Montagnes, ouais. Et ça, là, le fromage, il est...
Ça se ressent au fromage, au goût.
Ah oui, oui, oui.
Donc là, c'est vraiment la traite à la main.
Voilà, voilà. C'est un choix. Tant qu'on peut. Après, traire à la main, c'est un peu physique quand même. Hein. Et c'est vrai qu'au niveau des poignets, on peut vite avoir, avec l'âge, des complications. Pour l'instant, tout va bien.
Parce que vous êtes assez jeune, Maxime.
Ouais, j'ai 40 ans. Et après, c'est surtout que j'ai démarré le métier un peu tard, moi. Et je ne suis pas du monde paysan. Du moins, mes grands-parents maternels étaient paysans. Hein. Ils avaient une petite exploitation de vaches laitières dans la plaine du Forez. J'ai du contact avec ma grand-mère qui m'apprenait à faire le beurre avec la crème. Je trouvais ça très très agréable. Donc ce contact avec le lait. Et je suis vite arrivé au fromage d'estive, quoi, dans les Pyrénées.
Parce que c'est ça, hein, vous êtes un fermier transhumant, comme on dit.
Voilà, voilà. On transhume, donc il y a une partie où on quitte l'exploitation, la ferme, et on s'en va chercher l'herbe en altitude. Ouais. Et la cabane de l'Urbe, qui se trouve à 1800 mètres d'altitude. Et là, on va chercher une herbe de haute montagne en période d'estive. Donc on s'en va de fin juin jusqu'à fin septembre avec les brebis. Et on fait suivre toute la petite famille, les brebis et les enfants.
Vos fromages ne sont pas des fromages AOP?
Ah non, non. Nous, on n'a pas souhaité rentrer dans la démarche de l'AOP au sol erratique. Il y a quand même un gros pourcentage de fromage qui est fait de façon industrielle. Il y a un pourcentage de fermiers, mais qui est assez minime. Hein. C'est la communication, ils savent communiquer sur le fromage pour mentir au consommateur. Hein. Il l'induit en erreur, il fait croire que c'est un produit du terroir. Et après, la réalité est tout autre sur le terrain. Nous, on fait du vrai fermier ici, là. Voilà. Nous, on fait un fromage qui n'est pas... qui n'est pas régulier. D'une saison à l'autre, il va changer. D'un jour à l'autre, il peut changer.
Selon la météo même.
Voilà, la météo, la qualité du lait. D'ailleurs, on n'est pas sur la pasteurisation qui va endormir tout ça. On n'est pas sur même sur notre refroidissement du lait. Nous, on refroidit le lait pendant 12 heures à 10 degrés. Et ça laisse place à ces températures-là, à la vie, quoi, au niveau bactéries. C'est un lait vivant pendant 12 heures. Voilà. Et en dessous, on endort trop les bactéries et elles ne se développent pas non plus. Nous, on a choisi cette température-là parce que c'est la bonne température où on n'est pas trop chaud.
Donc il y a à peu près 5 degrés de différence entre vous et les industriels.
Voilà. Et entre 3 et 4 degrés, on met toutes les bactéries en dormance, ce qui permet de pousser le lait en conservation sur 48 heures, par exemple, 24, 48 heures. Et c'est ça qui tue la culture du goût, quoi, entre autres.
Véronique Richet-Lerouge, vous avez eu la chance d'aller goûter sur place cette fabuleuse tome de brebis produite de façon totalement traditionnelle et fermière, avec du lait cru évidemment. La tome de Maxime Bajas et sa femme Barbara Vinerier, c'est bien ça?
C'est ça. Alors il m'a réconcilié avec l'osso. Alors, c'est vrai qu'il ne peut pas appeler ça osso iratique.
Mais oui, parce qu'il y a une confusion. On pourrait penser qu'a priori c'est un fromage assez proche d'une appellation qu'on connaît bien, qui est l'osso iratique.
C'est la tome d'osso du coup qui fabrique, qui est l'ancienne.
C'est ça.
L'ancestrale à l'ancienne, et lui il a refusé d'aller dans l'AOP comme beaucoup de fermiers là-bas. Il y a une très grosse lutte, il y a une grosse fronde parce qu'ils estiment que l'AOP a dévoyé la façon de fabriquer. En plus, c'est vrai que l'irati et l'osso n'ont rien à faire ensemble. Il y a des traditions basques et des traditions béarnaises.
C'est une appellation un petit peu particulière qui date des années 70 et qui réconcilie en quelque sorte, qui réorganise une filière laitière.
Qui réconcilie personne. Oui. Justement, au contraire, ils ont créé la guerre.
Qui fédère, je veux dire, oui.
Oui, ils essayent, mais ça ne marche pas du tout. Mm-hmm. Et c'est vrai que faire finalement la tome d'osso est assez différente de la tome béarnaise. Il y avait plein de traditions de tomes dans ces pays-là. Et quelque part, vouloir mettre tout le monde ensemble, ça ne marche pas. Mais au-delà de ça, c'est vrai que l'AOP pasteurise à 80%. Avec deux grosses multinationales, Lactalis et Sodiaal, qui sont très présentes et qui font la loi. Et les fermiers, au milieu de tout ça, ils ne se reconnaissent pas, donc ils ne veulent pas être dans l'AOP.
Et c'est pour ça que Maxime Bajas ne veut pas manger de ce pain-là, ou plutôt de ce fromage-là. Lui, c'est fabrication fermière, on le redit.
Et oui, et sans être AOP, la fabrication du fromage de Maxime et Barbara obéit pourtant à un cahier des charges très strict. Sur chaque fromage rangé sur les étagères du saloir, on peut voir l'empreinte d'une grosse patte d'ours qui représente leur label. Un label qui s'appelle Pédescaou, une marque déposée...
Qu'est-ce que Pédescaou ?
Alors, je vais vous le dire.
Ouais.
Mais alors, cette marque déposée par les bergers du Haut-Béarn pour la fabrication d'un fromage fermier. Donc, tous les Pédescaou sont produits avec des brebis de race locale, au lait cru et avec une fabrication journalière. Alors, Pédescaou, ça signifie celui qui va nu-pied. C'est le surnom qu'on donnait à l'ours, car pour eux, c'est vraiment important de cohabiter avec l'ours, même si aujourd'hui, on en compte très peu. L'enjeu, c'est de maintenir ensemble berger et ours. Et avant de vous emmener au saloir, je retrouve Barbara sur les coups de 10 heures qui brasse les cahiers pour rechercher le grain désiré. Alors sur fond de jazz, là, vous êtes en train de brasser le lait ?
Je brasse le lait pendant 20 minutes. On a d'abord chauffé le lait d'hier soir avant d'y mélanger le lait de ce matin pour pas qu'il y ait de choc thermique. Et on l'a monté jusqu'à 29 degrés pour l'empressurer, donc mettre de la présure pour que le lait caille. Et 40 minutes après, le temps du petit déjeuner, je suis revenue et j'ai comme un espèce de gros yaourt dans cette cuve que je tranche à l'aide du tranche-caillé que vous voyez là.
Et ça, vous le faites tous les matins?
Tous les matins du 1er janvier, ou des fois c'est le 2 parce que le 1er on a mal à la tête, jusqu'au 15 août.
Donc là, on est
dans le saloir. Ouais, dans le saloir, voilà. C'est là où on affine les fromages. On va les frotter, on va les retourner. On va créer une croûte qui rentre dans la conservation du fromage. Donc on frotte bien, il faut appuyer un peu. On frotte toutes les faces et on les retourne. Voilà. Donc c'est relativement simple, mais physique. Voilà, parce qu'un fromage fait dans autour de un peu plus de 5 kilos. Hein, voilà. Quand on en fait 50, ça va, mais quand il faut faire tout le saloir dans la journée et qu'on atteint 300 fromages dans la... En 4 heures, bon, il faut y emmener un petit peu. Et puis voilà, puis on le sent au bout du bras. Voilà. Je pense que c'est moins agréable quand on le fait pour les autres. Voilà. Mais quand on le fait pour nous, c'est très agréable puisque c'est la dernière étape avant la commercialisation et la dégustation. Quoi. Voilà.
Ces fermiers, vous l'aurez compris, produisent de la tome de brebis pyrénéenne et non un osso irati. Et en vente, on peut donc trouver trois fromages différents. Le fromage de bergerie, le fromage de printemps et le fromage d'estive. Sur le plateau, je vous ai rapporté deux fromages d'estive et un de bergerie. Moi, j'ai eu la chance de les déguster avec Maxime et Barbara dans leur atelier. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'après toutes ces années, ils restent aussi émerveillés par la diversité des goûts de leur propre fromage. C'était un pur moment de plaisir.
Voilà.
Alors, il est du 11 juillet. On va regarder ce qui s'est passé le 11 juillet. Déjà, on a une indication sur le fromage.
Il y a un petit soleil qui est dessiné, là.
Oui, alors là, vous avez déjà le signe du fromage d'estive. Donc, une montagne avec un Edelweiss dedans.
Et donc là, un petit soleil, un peu de pluie. Hein.
Voilà, donc nous, on a cette caractéristique de marquer la météo sur nos fromages. On trouve ça rigolo et sympa.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire goûter, là ?
Alors là, on va commencer par le plus jeune de l'estive, donc le 23 juillet, parce que on va commencer par lui parce que tout simplement il est jeune, plus jeune. L'idéal, c'est de toujours démarrer par les fromages les plus doux. Allez-y.
Ah merci. Il a vraiment des notes, je trouve très lactées, voire un peu beurrées.
Oui, on a un fromage avec une pâte souple. Légèrement collante, c'est pas énorme, elle vient pas se blottir au palais et puis rester, avoir du mal un petit peu à la décrocher, c'est pas le cas. On sent la souplesse et un léger goût un petit peu fumé, on trouve.
Très léger.
Souvent, on nous calque à dire, ouais, ça va être des fromages un peu costauds, le fermier, ou long en affinage, un peu costaud et tout. Là, c'est quand même pas le cas, mais en même temps, il a quand même quelques mois, donc il est du.
Pourtant, il reste onctueux.
Voilà, c'est vrai qu'on arrive, du moins c'est un peu notre particularité, et là c'est toute l'influence du saloir et de l'ambiance au saloir. On est sur un saloir quand même très humide, et du coup il assèche pas les fromages, et malgré avec les mois d'affinage, et ben on arrive à avoir un fromage encore humide, agréable, et pas sec. Quoi.
Bon, ben, et crémeux, on va le voir sur un an d'affinage, il reste crémeux même au bout d'un an.
Je vais vous chercher un fromage de tout ce mois. Pour voir visuellement à quoi il ressemble. Voilà. Celui-là est bien représentatif un petit peu de ce que peut venir devenir un fromage en vieillissant, voilà, avec de l'âge. On dirait de la pierre. Voilà.
Mais c'est vrai.
On croirait que c'est un faux fromage, que derrière c'est sculpté ou dans la pierre. Voilà,
déjà l'odeur, elle est géniale. Ouais, c'est fabuleux.
C'est parfumé. Hein.
Ouais, c'est génial. Déjà, j'aime le fromage de bergerie, même quand il est peu affiné. Quand on dit peu affiné, chez nous, c'est 5 mois. Ou vraiment, au minimum, ça va être 5 mois, pas moins. Ça. Mais là, quand il est très affiné, oh là là là, même le premier goût est génial.
Il est encore crémeux.
Il est encore hyper crémeux. Il a un an, quand même.
Ouais, c'est ça, le truc.
J'ai goûté un fromage signé Maxime Bajas il y a 10 minutes. Sincèrement, je l'ai encore en bouche. C'est absolument incroyable. J'ai même des aftes plein la bouche, presque. Non mais c'est spectaculaire d'arriver à un résultat pareil. On est à l'opposé même d'un fromage standardisé. Et pourquoi ?
Complètement, parce qu'en fait, Maxime est comme quelques fermiers, justement, qui ne veulent pas rentrer dans la OP, comme on l'a dit. Ils n'utilisent pas de ferment lactique.
Voilà.
Et le ferment lactique, en fait, c'est le ferment lactique naturel qui a l'état natif dans le lait.
Parce que le lait est riche et vivant.
Voilà, comme son lait est cru, vivant, etc. Pas du tout refroidi, transformé matin et soir. Donc en fait, il n'y a pas de problème.
La standardisation du goût, Véronique Richel-Rouge, la standardisation du goût dans les fromages AOP passe souvent justement par l'usage de levure. Et ça doit dire quelque chose aussi à Antoine Gerbel, dont le sujet de passion est évidemment le vin, mais c'est l'usage de levure exogène, pas de levure, mais de ferment exogène.
Oui, de ferment de laboratoire. Et ensuite, on oriente le goût en fonction des goûts des consommateurs. On dit oui, alors on aime ça, alors on va faire un fromage comme ça. En réalité, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Logiquement, c'est le lait qui est la signature du terroir, et en fonction des mois, etc., on a des goûts différents, ce qui est le cas chez Maxime. Ouais. Vous avez vu la différence entre les trois ossos, là.
Incroyable.
Dans notre trilogie d'aujourd'hui, pain, fromage, vin, bien évidemment, la matière première, le raisin, le lait, les céréales, et puis le temps. Enfin, le temps, c'est pas de l'argent, le temps, c'est de la qualité. Mmh. Et tout ce que vous disiez tout à l'heure sur ces multinationales, qu'est-ce qu'ils embauchent pour faire tourner les nouvelles maisons que vous évoquez, qui rachètent des contrôleurs de gestion. Ils achètent, ils n'achètent pas des savoir-faire, ils achètent des gens pour rationaliser, gagner plus d'argent, avec bien évidemment ces jolies marques. Et en appellation d'origine du vin, on a la chance d'avoir un univers beaucoup plus atomisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros industriels qui pèsent véritablement. Beaucoup le regrettent d'ailleurs, hein, voudraient que la France ait un grand vin de table qui puisse se battre contre les Australiens, les Américains. Moi, je ne le regrette absolument pas, parce qu'on a encore toute cette diversité dans le vin.
Bravo, c'était
alors
un mot d'Antoine Gerbet.
Alors que dans le pain, précisément, il y a des gros industriels qui tirent la couverture.
Mais on va en parler aussi, parce qu'on se rend compte en fait que les approches et les démarches sont finalement très proches. On va parler pain et pain exceptionnel avec Elvira Masson dans un instant. On va parler vin et vin exceptionnel avec Antoine Gerbet dans un instant. Et on écoute I'll Cry All Day, Wilco.
C'est dimanche sur France Inter, on va déguster.
I know that I'm unknown. I'm never totally right. I'm gonna walk away slowly. Instead I bid you good night. Another goodbye. I'm gonna cry. Cry. Said it was good. If I could sell it by the dozen, I never did, but you would. I know that you would. Where that you could. Cry, 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 cry all day. Cry all night. I had a hole in heart. I had a company me, kept me wholly from rolling. Someone into something like me, something like me. You don't wanna be.
Ça se bouscule sur notre mail, Elvira, avec beaucoup de questions sur des consommateurs un peu inquiets quant au choix de leur fromage.
Exactement, nos auditeurs se posent beaucoup de questions et se demandent un peu si on ne leur donne pas des vessies pour des lanternes. La question qui revient pas mal, c'est précisément, est-ce qu'en achetant des fromages fermiers, on est sûr d'avoir affaire à un fromage artisanal ?
Oui, globalement, oui, c'est vrai que le fromage fermier, c'est la fabrication à la ferme avec le lait du troupeau, ça c'est la définition. Donc globalement, oui, on aura plus de chances de trouver un produit artisanal. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura 1% de fraudeurs, bien sûr, il y aura toujours et partout, il n'y a pas de gendarmes partout. Mais globalement, il faut s'orienter aujourd'hui partout vers des produits fermiers.
J'oserais ajouter une question, j'ai un peu peur de la réponse. Est-ce que le fromager est un repère, une boussole fiable pour guider le consommateur?
Là, je sens que ça va être... je vais avoir plein d'appels téléphoniques cette semaine. Les fromagers ne sont pas toujours, malheureusement, de très bons vecteurs. Il y en a. Il y a de très grands professionnels qui ont une éthique et qui sont là pour défendre les producteurs et travailler avec eux en partenariat. Mais malheureusement, beaucoup ne le font pas.
Oui, mais contrairement d'ailleurs, Antoine Gerbet, au caviste, le problème des fromagers, c'est qu'il y en a beaucoup qui subissent le lobbying, voire les petits privilèges et avantages de groupes industriels qui font, du coup,
c'est vrai, mais
fatalement dériver leur vision du fromage.
Un autre parallèle qu'on oublie, c'est l'affinage chez le fromager et le caviste qui achète des vins jeunes et qui devrait les faire vieillir. Aujourd'hui, trop de cavistes achètent des vins jeunes et les revendent dans les 6 mois. Ils ne font pas leur travail. Donc c'est cet angle-là, je trouve, qu'il faut aussi appuyer.
Lénora Krief.
Oui, et puis après, le mieux, c'est aussi d'aller le chercher à la ferme, si on a le temps.
Maxime vend par Internet.
Moi,
il y a des jolis parcours
Paris.
En France.
Non, mais c'est vrai.
Mais attendez, avec Internet...
Profiter de ses vacances pour aller voir des...
Avec Internet,
pour mettre
aujourd'hui,
des visages sur des bons fromages.
François Régis, avec Internet, aujourd'hui, on peut commander. Maxime vend par Internet. J'achète son fromage par Internet. Donc aujourd'hui, grâce à ça, on peut accéder à des produits de très loin de chez soi, parce qu'on se les fait livrer chez soi, c'est très bien.
Petite question, peut-on constater que le prix d'un fromage fermier ou un fromage fabriqué tel que celui de Maxime Bajas, est-ce qu'il est fatalement plus cher qu'un fromage même d'AOP provenant d'un opérateur industriel?
Non, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Vous achetez directement. Donc lui, il va vendre son prix et il faut qu'il
le vende à un prix
correct.
Donc le consommateur n'est pas perdant?
Pas du tout. Au contraire, vous êtes gagnant sur le goût, vous êtes gagnant sur le prix. Et en plus, vous êtes livré chez vous. Donc ça, c'est génial. Et moi, j'incite les fromagers à faire le boulot maintenant.
Eh bien, on va essayer de le mener, ce boulot. Mais moi, ce que je propose maintenant, c'est de manger ces bons fromages, AOP, mais AOP respectueux des traditions et des savoir-faire, notamment paysans, et donc du coup plutôt de préférence des fromages fermiers, et bien de les accompagner avec un très bon pain.
Mettez le couvert, on va déguster sur France Inter.
Notre pain est-il dans le pétrin ?
Oui, c'est le titre précisément d'un documentaire qui est diffusé ce soir à 20h50 sur France 5, réalisé par Élise Joseph, qui propose en 52 minutes un état des lieux du paysage assez pathétique, voire irresponsable de la pratique boulangère en France, et aussi peut-être de quelques raisons d'espérer de meilleurs lendemains.
On mange en moyenne une demi-baguette par jour. Mais que contiennent vraiment nos pains ? Farine, eau, sel, levure ou bien levain, la recette originelle est simple. Mais la plupart du temps, on avale à notre insu des améliorants, des correcteurs, des additifs et des enzymes. Quelles conséquences pour notre santé ? Notre pain est-il dans le pétrin ?
Notre pain est-il dans le pétrin ? C'est donc le titre de ce documentaire qu'on vous conseille. On l'a tous vu ou presque autour de ce plateau.
Oui, vraiment, je vous conseille. C'est en plus, c'est pas exagéré. La mise en scène, la musique n'est pas dramatique.
Très bonne enquête.
C'est une très bonne enquête. C'est d'abord du fond et c'est vraiment à regarder absolument.
Et ça se passe ce soir en prime time, hein, comme on dit en bon français, sur France 5.
Le moins qu'on puisse dire.
C'est que la situation est alarmante, c'est ça ?
Oui. Alors, si on doit résumer en peu de temps, les meuniers tirent les ficelles du marché. Avec deux leaders, Soufflet et Axiane Meunery, ça ressemble beaucoup à votre combat, Véronique Richer-Lerouge. Ces deux leaders sont des fabricants de farine, on peut dire fabricants de farine, on ne devrait pas fabriquer la farine, on devrait proposer la farine, mais là on fabrique de la farine. On leur doit des marques, qui sont des marques comme Baguépi, Campaillette, Banette.
On croise beaucoup hein, au coin de la rue.
Partout. Sur les 32 000 boulangers français, 1 sur 3 fait partie de ces groupements. Groupement qui pousse les boulangers à choisir leurs recettes sur catalogue.
Mmh, comme des meubles en kit.
Un vrai catalogue qui s'appelle, je pense, farine, mix et autres améliorants. On leur propose donc, c'est vraiment le nom, des mix tout prêts, qui portent des noms de type pain meule, pain paysan. Donc si vous allez chez un boulanger, qui a un petit logo campaillette et que vous achetez un pain meule, imaginez pas du tout que c'est un pain fabriqué de manière traditionnelle. Donc, si on choisit sur catalogue, évidemment, ce qui se passe, c'est que le goût est standardisé, que le boulanger ne crée plus ses recettes parce qu'il commande des préparations. Mmh. Ces préparations contiennent tout un tas de poudres de perlimpinpin, notamment ce qu'on appelle les améliorants, qui servent notamment à réduire le temps de fabrication pour améliorer la rentabilité.
Tout est dit. L'améliorant, c'est quand même...
Il y a une marque extraordinaire déposée, pain paysan.
Oui, pain paysan. Pain paysan ou pain meule.
On vole cette étiquette paysan qui est tout à l'inverse de cette démarche.
Donc en schématisant un peu, ce sont des pains dopés, confectionnés à partir de farine de blé de variété moderne, dont les semences appartiennent à de gros industriels, qui sont cultivés par des agriculteurs qui travaillent en conventionnel. Donc il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre les pains de boulangerie ainsi confectionnés, les pains de supermarché, sachant que le pain de supermarché a entre guillemets progressé de niveau, parce qu'il y a maintenant des supermarchés équipés de fournil. Donc entre le fournil du supermarché et le pain campaillette en bas de la maison, c'est la même chose.
Et ce que montre très bien ce documentaire, Elvira, c'est qu'il y a des conséquences évidemment dramatiques, avec plusieurs grands perdants.
Premier grand perdant, le consommateur. Encore une fois, on lui fait passer des vessies pour des lanternes. Les cas d'intolérance au gluten à force d'avaler des pains bourrés d'additifs faits avec des farines contaminées par les pesticides. Et plus on a affaire à des pains spéciaux ou des pains complets, pire c'est. Parce que plus la graine est entière, plus le pesticide accède directement au corps humain. Et autres insecticides, la plaie c'est quand même des insecticides de stockage aussi. Parce qu'un agriculteur, s'il veut aérer entre guillemets son blé et ne pas le conserver en silo, ça demande une technique particulière, de l'air pulsé, qui coûte cher. Donc c'est beaucoup plus simple de vaporiser des tonnes d'insecticides de stockage. Et l'autre grand perdant, c'est de fait le blé. Il n'existe en France plus qu'une trentaine de variétés cultivées à grande échelle en France. Les agriculteurs ne plantent plus que des blés dits panifiables. Seuls 2% des céréaliers produisent du blé sans pesticides.
Et dans ce paysage peu réjouissant, heureusement, il y a une lueur d'espoir. Il y a une nouvelle génération d'artisans qui se battent pour un autre pain.
Ah oui, c'est une petite armée silencieuse, mais c'est une armée en marche. Ce sont des paysans qui sont parfois boulangers ou des boulangers qui sont parfois paysans, je ne sais pas très bien comment le dire. Des personnes comme Roland Feuillasse, comme Charles Poilly, que vous connaissez bien, François-Régis à Cucugnan.
Et qui insuffle quand même, qui a insufflé à toute cette génération un esprit conquérant absolument sur le
Charles Poilly,
pain
qui
paysan.
Est un jeune dans le Lot-et-Garonne. On les appelle d'ailleurs les paysans boulangers. Ils sont une petite centaine en France. Ils sèment sur leurs terres des semences paysannes qui sont beaucoup plus difficiles à panifier. Ils cultivent en bio. ils récoltent leur blé, ils le transforment en farine, puis en pain pour le vendre eux-mêmes. Ce sont des circuits courts, enfin, ce sont vraiment
ça
des démarches.
Bête, mais... non, c'est vrai que le pain, finalement, c'est de la farine de céréales, de l'eau, un peu de sel. Hein,
ben, c'est ça.
Et du travail et de l'amour.
Et du levain naturel, pas des levures.
Absolument.
Il y a également des boulangers qui ne travaillent précisément qu'au levain, pas la levure. Sans levain, pas de bonne digestion possible, d'où les risques d'intolérance au gluten, avec des farines de ces blés dits de population. Comme un certain Maxime Bussy, dont je vous ai apporté la récolte en quelque sorte.
Ah, mais c'est ça, ça vient de là, c'est bonne miche.
Non, mais vous sentez l'odeur, vous avez vu ces croûtes
oui.
Et ces mies qui ne sont pas blanches.
Mais vous m'avez confié d'ailleurs qu'en allant voir Maxime Bussy, il est dans le 20e arrondissement de Paris, enfin je préfère la chronique
Réunion.
À votre place, hein,
oui.
Mais que l'odeur n'était pas celle d'une boulangerie traditionnelle, enfin traditionnelle, oulala, habituelle.
Habituelle, sur le pas de la porte, l'odeur, de fait, il ne fait que du pain et quelques sablés à la farine de châtaigne et au bon beurre. Il ne fait pas de brioche, il ne fait pas 12 milliards de farandoles de dessert, etc.
Pas de baguette, j'imagine.
Pas de baguette.
Parce que pas de farine blanche.
Bien sûr, donc évidemment l'odeur n'est pas la même, c'est une odeur presque fumée, c'est une odeur de bois. C'est assez merveilleux. Maxime ne travaille que des farines de blé anciens, bio, levain naturel, fermentation lente, pétrin manuel. Il pousse la démarche encore plus loin. Il va chercher son eau dans un puits artésien en plein Paris, parce qu'elle est la plus pure qu'on puisse imaginer. Donc il va avec son petit vélo et ses bidons et ses jerrycans chercher son eau tous les matins. Sa boulangerie spartiate, c'est un fournil, un petit comptoir. Elle n'est ouverte que quelques heures par jour, de 17h à 20h, quelques heures de plus au dimanche. Pas la peine d'ouvrir plus, de toute façon ses volumes sont trop petits. Mais c'est merveilleux. Le pain du Loriot, qui est un mélange de froment ancien, du rouge de Bordeaux, du barbu du Roussillon. Tiens, c'est Roland Feuillaz.
La fameuse semence de Roland Feuillaz dans les Corbières.
Le corazon, qui est l'ancêtre du Camut, parce que le Camut, c'est une marque déposée aussi. Le seigle blanc, laquelle céréale va disparaître. Donc, c'est la dernière miche que je vous ai apportée. Je pense qu'il n'y en aura plus dans 3 semaines, c'est fini, le seigle blanc.
D'accord.
De la châtaigne merveilleuse. Et ben voilà, donc il y a quand même des raisons d'espérer.
Ça s'appelle comment? Le Bricheton, hein?
Le Bricheton, 50 rue de la Réunion, Paris 20e.
On va faire bientôt une émission sur le pain.
On a intérêt, oui.
Et Maxime Bussy en saura, oui. Ça j'en suis à peu près sûr. Voilà un boulanger vraiment modèle qui est tombé dans le pétrin. L'expression n'est pas très appropriée. Mais on va pas dire par hasard, mais qui a commencé comme ça à s'aventurer dans le pain et qui fait vraiment une miche absolument brillante. Véronique Richet-Lerouge, est-ce que c'est important? Alors on a tous ces pains, vous les avez goûtés. C'est important justement un bon pain avec un bon fromage? Je connais la réponse.
Bah, c'est essentiel puisque le pain fonctionne avec le fromage avec le vin et le vin avec le pain. Tout ça se répond. Ce sont des frères et des voisins historiques. Et c'est vrai que le pain peut gâcher un fromage comme le fromage peut gâcher un pain. Ainsi que le vin d'ailleurs. Hein. C'est pas
tout à fait,
qui va me contredire sur ce point.
Et c'est le même combat, tout ça quand même.
Ça vient d'où ça?
Ça vient d'où? Je sais ce que
c'est. C'est seigle blanc, c'est rare ça.
Rare, en voie de disparition. C'est la fin ça.
Complexité en bouche et puis c'est long avec une légère acidité.
Un peu mielé aussi. Ouais.
Et tout part de la production. Vous voyez, tout part toujours de la production de la matière première.
Et puis il y a les
notes. C'est l'histoire de l'alimentation.
C'est magnifique ça. Puis la croûte.
Et la croûte un peu légèrement aux accents un peu caramélisés. Waouh! Absolument
prodigieux. Maxime Bussy.
Qu'est-ce que vous disiez?
Non, je voulais parler d'un événement à Paris demain.
Oui, bon, on va en parler juste après, mais vous évoquez le vin. On va évidemment en parler. Mais tout de suite, place à Antoine Gerbel. C'est à vous, mon cher Antoine.
Oui, alors je suis totalement dans mon élément là quand on parle de ferment et de vrai fromage et de vrai pain, parce que il y a aussi les vrais vins. Alors il y a une vraie bataille aujourd'hui dans le monde du vin, et je vais vous parler de quelques rebelles qui ont décidé de ne plus être en appellation d'origine contrôlée, comme on dit encore dans le vin, AOP aujourd'hui quand on parle européen. Et ce sont des gens qui ont décidé d'être en vin de France. Alors vin de France, vous savez, c'est le petit frère, le grand frère, je sais pas comment dire, du vin de table de jadis. Et donc jadis, le vin de table, c'était mauvais, c'était vraiment la base de la pyramide.
Le vin du roturier.
Et donc, il n'y avait pas de bon vin de table. Il y avait forcément toujours une appellation d'origine supérieure. Aujourd'hui, dans les vins de France, tels qu'on les qualifie, c'est la nouveauté, c'est qu'il y a des bons vins de France. Et les bons vins de France sont principalement produits par des gens qui ont soit décidé de sortir de l'appellation pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire, ils se reconnaissent plus dans ces cahiers des charges. Ils ne veulent pas, ils ont un autre problème dans le vin, c'est les agréments. Ils ne veulent pas être jugés par des gens qui font pas très bon et qui vont leur dire que leurs vins ne sont pas très bons non plus.
Parce qu'en un mot, l'agrément, Antoine Gerbel,
c'est la dégustation collective des vins par l'appellation.
Alors, qui ne se produit pas dans le fromage. Hein,
voilà,
ça c'est spécifique
pas dans
au
le fromage. Ça s'est assoupli dans le monde du vin, mais enfin, ça reste quand même assez rédhibitoire pour certains vins qui ont été choisis, par exemple, d'être faits sans intrants, totalement, qui modifient quand même le style des vins. Et puis, on a aussi un autre problème, c'est qu'on a des cahiers des charges d'AOC qui sont un peu sclérosés dans les appellations. On a décidé qu'à Bordeaux, il y avait 3 ou 4 cépages. On a décidé qu'en Bourgogne, on n'avait qu'un pour les rouges, un pour les blancs. Et il y a des gens qui arrivent, bon, ils disent, c'est certes, je ne conteste pas cette histoire, mais j'ai envie d'innover. Et dans cet univers de vin de France, on a des gens qui plantent des cépages différents ou alors qui vont assembler des régions. Et là, je vais vous présenter deux vins très étonnants.
Wow, le premier, ça se voit aux étiquettes, hein.
Alors, c'est un vin blanc, c'est le fond de cyprès, le domaine, c'est fond de cyprès, c'est Rodolphe Giannizzini et Laetitia Orliac.
Attendez, dites-moi que c'est dans l'Aude?
Oui, alors on est à la frontière, oui, exactement, à la frontière des Corbières et du Minervois.
D'accord.
On est exactement à Escale. Et alors ça, ce sont des jeunes locaux, hein, ce sont des languedociens qui sont revenus à la terre. Il y avait de la vigne dans la famille, mais qui sont dans la mouvance, bien évidemment, des vins. Tout ça est un vin bio, plutôt nature, et c'est un assemblage de cépages qui ne sont pas dans l'appellation. Il y a du grenache blanc, ça vous en avez dans tout le Languedoc, mais il y a du Viognier et de la Roussanne. Et l'idée, c'était de vendanger ces cépages en même temps, les mettre dans un tonneau, simplement de ne pas houiller, c'est-à-dire de ne pas rajouter régulièrement du vin dans le tonneau, le laisser un peu vivre, c'est-à-dire prendre un peu d'oxydation, légèrement d'oxydation, et là on a un vin. Alors, c'est effectivement, il ferait hurler les sommeliers des années 70, tellement il est un peu roux de peau.
Il est vivant.
Il est vivant, mais ce côté fermentaire élégant, parce qu'il y a de la mauvaise fermentation, c'est l'art d'ailleurs des grands vignerons.
Là, c'est tout en finesse.
C'est tout en finesse. C'est à la fois très tonique et légèrement suave, et donc c'est un partenaire pour les fromages. Moi je me suis régalé avec le fromage basque. Il y a vraiment quelque chose de très...
Du Béarn, pardon. On va se faire gronder par Maxime Ballas.
C'est comme dans le rugby, je les confonds toujours.
La panique sur le visage,
la même chose. Allez, on va se prendre une cargaison entière de mails.
Du Béarn, on va dire que ce type de vin blanc, donc un blanc de macération assez riche, et bon, vraiment quasiment avec tous les fromages. Vous amenez un autre vin rouge. Alors là, c'est très étonnant, il vient du Jura. Il est signé par Jean-François et Yann Ganva.
Vous nous prenez par les sentiments, toi.
Alias Fanfan Ganva, un grand personnage, c'est le Rabelais du Jura actuel. C'est un type extraordinaire. Généreux, attentif à tout. Il a eu des problèmes, malheureusement, comme beaucoup de vignobles septentrionaux, de récolte, de quantité de récolte. Donc, il a inventé un vin. J'adore le nom. De toute beauté. Vous savez, c'est ce que disent.
L'étiquette est de toute beauté, d'ailleurs.
C'est ce que disent les vignerons quand ils se charrient un peu entre eux, quand ils goûtent le vin. Ils disent ton vin, il est de toute beauté en mettant l'accent. Et là, nous avons une belle Vénus Calipiche sur l'étiquette. Et alors, dans ce vin, il y a du Pinot Noir du Jura. Ça, oui. C'est normal pour un Jurassien de Rotalier. Mais il y a du Gamay de Fleury en Beaujolais.
Et c'est pour ça qu'il est en vin de France ?
Et c'est pour ça qu'il est en vin de France, bien évidemment, parce qu'il se retrouve hors territoire. Mais donc, voilà, encore une fois, aller chez son caviste, parce que dans les grandes surfaces, vous ne trouverez jamais ça, demander s'il s'intéresse un peu à cet univers de vin de France de qualité, et vous allez trouver des choses vraiment très étonnantes.
Là, vous nous citez des vignerons qui trouvent précisément que le carcan que leur imposent les appellations d'origine protégée ils sont trop à l'étroit, finalement.
Oui, et ils en font aussi, c'est-à-dire qu'ils signent aussi des vins en AOC. Mais dans ces vins de France, maintenant, vous avez presque leur haute gamme. Et je tiens à citer un grand personnage ligérien qui s'appelle Marc Angeli, et quand on parle céréales, moi il me fait penser, puisqu'il m'a fait découvrir des grandes céréales biodynamiques. C'est Marc Angeli mettait sur sa veste qu'on arrivait dans sa cave vigneron polisson, paysan polisson. Je trouvais ça très très drôle, mais c'est lui qui a insufflé, qui est sorti de l'appellation Anjou il y a très longtemps déjà. Il y revient aujourd'hui, mais pour bousculer. Et je pense que ces hommes-là ont besoin de bousculer un peu toutes ces AOC.
Au niveau des prix, ça donne quoi?
13€, 18€.
Vous nous rappelez juste les références. Donc le premier, un vin blanc.
Tout est sur le site de France Inter, on va déguster. Fond Cyprès, le blanc des Garennes 2013,
oui.
De toute beauté, de Jean-François Ganva.
Toutes les informations à retrouver évidemment sur franceinter.fr à la page on va déguster. Vous vouliez évoquer, Véronique Richer-le-Rouge, un événement. Eh bien, allez-y.
Un triste événement demain qui s'appelle le Cheese Day, qui malheureusement aurait pu être très bien.
Il en a entendu parler, Antoine Gerbel, du Cheese Day, je crois.
Qui fait un mélange des genres assez consternant entre fromage industriel. Alors, on trouve du Caprice des Dieux, du Saint-Agur, du Carré Frais, du Braise Bleu, etc.
Et mélange puis, des genres, vous voulez dire.
Voilà, avec quelques fermiers qui sont là, quelques AOP. Et alors, surtout, c'est incroyable, des chefs étoilés se prêtent à ce petit jeu. On se demande s'ils n'ont pas mieux à faire quand même.
Des noms.
Hein, alors, Guy Savoy est partenaire.
Ah, quand même.
Vous avez Vigato, vous avez Christian Lesquière. Vous avez quand même une brochette d'étoilés qui sont là. On se demande pourquoi ils sont là.
Vous évoquez 2-3 étoiles d'ailleurs. Hein,
ah oui, quand même. Et puis, vous avez aussi les meilleurs ouvriers de France fromagers. Et là aussi, c'est assez consternant parce que quand on a un titre de MOF, je pense que le boulot du MOF, c'est quand même au contraire d'aller chercher les produits rares, de soutenir les dernières productions fromagères, celles qu'on a citées. Non, mais
attendez, il y a des meilleurs ouvriers de France. France qui sont salariés par Lactalis.
Oui, il y en a
en fromager,
oui, bien sûr, je vais le citer. Xavier Turet, il n'y a pas de problème. Hein, il fait partie de l'événement. Et si vous voulez, ce qui n'est pas normal, c'est qu'un événement sur les fromages industriels, pourquoi pas? Après tout, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais en revanche, aller prendre l'image de la gastronomie française et l'associer à ça, c'est purement scandaleux.
Écoutez, votre message est passé.
Allez demain chez votre fromager, moi je dirais, à la limite, bon, ces événements...
Le Cheese Day, voilà.
Oui, mais là, le Cheese Day, c'est un salon et ils font payer l'entrée, etc.
Gardons simplement le côté positif, allons chez son bon fromager pour chercher nos bons fromages.
C'est-à-dire, il en faut pour tous les goûts, c'est souvent l'argument, mais bon, on ne met pas forcément le caprice des bips au même niveau qu'un très bon camembert ou des crues.
Ça, c'est le mot goût à bon dos.
Juste une petite chose, vous l'avez peut-être remarqué, dans une campagne présidentielle où la question agricole est un petit peu sous-traitée. S'il fallait faire passer un message, si un des candidats à l'élection présidentielle avait l'intelligence de reprendre l'une des bonnes idées pour remettre dans l'ordre dans les AOP, vous diriez quoi?
Alors aujourd'hui, pour sauver les AOP et même l'ensemble de la production, revenir vers des produits de qualité, on n'a pas le choix, il faut aller vers l'agroécologie. Tu vois, c'est la seule manière de faire. Pourquoi? Parce que dès qu'on quitte le logiciel volume et qu'on commence à se dire je vais produire moins, je vais produire mieux, je vais nourrir mes vaches avec de l'herbe, avec un système herbager, je vais prendre le temps de fabriquer, je vais moins mettre de ferment lactique, etc. Et je vais faire une production de qualité. À ce moment-là, on quitte le système agriculture intensive et on arrive dans une logique beaucoup plus intéressante. On fera des ventes, on pourra ouvrir des circuits.
Il y a des emplois et il y a la qualité à la clé. Et là, on se situe encore du point de vue du gastronome.
Ça, c'est la vraie direction. Les AOP doivent absolument se remettre en question et aller vers l'agroécologie, il n'y a pas le choix.
Vive le fromage, le pain, le vin fermier de qualité. Merci beaucoup Véronique Richet-Lerouge. On peut évidemment prolonger la réflexion et se réveiller les consciences avec AOP, main basse sur les fromages. Une enquête fouillée avec d'ailleurs beaucoup de clés pour guider le choix des consommateurs. Comment les multinationales contrôlent nos appellations. Éric Bonnier édition. Ça sort le 23, dans quelques jours.
Absolument.
Je reconseille vivement la chronique de cet essai, on l'a bien compris. Elle vira au pin du chef.
Oui, oui.
Oui, oui, elle est solidaire, c'est bien ça. Merci beaucoup. Et puis Maxime Bajas, on peut trouver ses fromages
Alors, bon, bien sûr, dans son atelier à bord de Bergès, mais toutes les infos sont sur le site, différentes crèmeries en France.
D'accord, et pas seulement sur place.
Non, pas seulement sur place.
C'est ça la bonne nouvelle. Merci à tous. Dans un instant, Antoine Gerbel.
Oh, faut faire une émission sur les accords fromage et vin.
Et bon, on va le faire, c'est vrai. Et en plus, vous aviez prévu de nous dire des choses, on n'a pas eu le temps malheureusement. Dans un instant, question politique avec Nicolas Demorand. La semaine prochaine, on vous entraîne à la table d'une famille chinoise. Je vous en dis pas plus, mais ça va être passionnant. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.